Secrétaire étrangère de l'Arménie pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Ahmed Tegedi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Mauritanie, et je prie le représentant du protocole de bien vouloir escorter son Excellence.
Minister, you have the podium.
Assalamu alaikum.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, que la paix soit avec son prophète. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi une heureuse occasion de vous présenter, Monsieur le Président, nos plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection comme président de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je reste convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour renforcer les acquis réalisés et pour enraciner la paix et la sécurité mondiale en vue d'instaurer un système international dans lequel l'humanité tout entière jouira du bien-être, de la stabilité et du progrès. Votre longue expérience au service de notre organisation à la tête de la mission de votre pays pour plus de 10 ans sont des facteurs qui vous portent de façon naturelle à la tête de cette session. Je voudrais également apprécier les efforts louables de votre prédécesseur, M. Vuk-Jeremic, pour l'intérêt qu'il a accordé aux problèmes du continent africain et l'action qu'il a déployée pour renforcer ainsi le principe de dialogue en tant qu'outil efficace de concertation et le rôle de l'état de droit et la bonne gouvernance. Je voudrais également adresser mes remerciements à M. le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, pour les énormes efforts qu'il n'a cessé de déployer au service de la paix et de la sécurité mondiale, ainsi que pour faire face au phénomène du changement climatique et à lutter contre la famine et les maladies mortelles et pour réaliser les objectifs de développement du millénaire. Monsieur le Président, en juin passé, lors de l'important discours que vous avez prononcé à l'Assemblée générale à l'occasion de votre élection comme président de sa 68e session, vous avez présenté votre ambitieux programme d'action pour ce mandat qui prend en considération la participation de la femme, de la jeunesse et de la société civile à l'ordre du jour du développement de l'après 2015, le rôle de la coopération Sud-Sud, la place des droits de l'homme et de l'état de droit, et celle des technologies de l'information et de la communication dans l'agenda envisagé de développement. Ce sont des thèmes importants et nous vous en remercions. Monsieur le Président, au cours des deux dernières décennies, conformément au rapport de développement humain, certains pays en développement ont connu un grand changement dans le domaine économique. Cependant, la majorité des pays en voie de développement, surtout les pays les moins avancés, demeurent extrêmement loin de la réalisation des objectifs de développement du 10e millénaire. Au seuil de l'année 2015, il nous incombe aujourd'hui de mettre en place des plans et programmes qui prennent en considération les échecs du passé et les défis de l'avenir et préparent efficacement l'ordre du jour du développement de l'après 2015. À cet effet, nous demandons aux pays riches de tenir leurs engagements relatifs au financement des programmes de développement dans ces pays qui en ont un pressant besoin. Nous demandons également à ces pays la mise en place d'une politique appropriée qui sera supervisée par les organismes spécialisés des Nations unies en collaboration avec les institutions financières internationales et qui s'articule essentiellement sur l'appui au système de santé et d'enseignement, l'annulation de la dette, le transfert de technologies, l'amélioration des échanges commerciaux nord-sud, la suppression des barrières douanières sur les exportations des pays en voie de développement, surtout les moins avancés, vers les marchés des pays du Nord, l'encouragement de la coopération Sud-Sud qui sans doute renforcera la coopération économique entre les membres de ce groupe, la mise en place de nouveaux mécanismes internationaux auxquels il sera assigné de veiller et de superviser la complémentarité régionale, de renforcer les relations entre les pays du Sud, comme le souligne le rapport du développement humain sous-mentionné, et qui faciliteront l'échange des connaissances, des expériences et le transfert de technologies entre ces pays. Monsieur le Président, sur instruction de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, notre gouvernement œuvre pour l'amélioration du niveau de vie du citoyen malgré des ressources limitées. Pour réaliser cet objectif, le gouvernement a suivi une politique éducative rigoureuse basée sur un enseignement primaire obligatoire et généralisé et le renforcement d'un enseignement secondaire moderne et la gratuité de l'enseignement supérieur dans divers domaines. Dans ce cadre, l'enseignement fondamental a été généralisé à presque toutes les villes et villages. Ceci a été rendu possible par la politique suivie par le gouvernement en vue de limiter le phénomène d'urbanisation anarchique à travers la fusion d'un certain nombre de villages. Quant à l'enseignement secondaire, tous les départements du pays sont maintenant dotés de collèges et certains d'entre eux ont des lycées, ce qui a facilité aux habitants des villages lointains de continuer l'enseignement de leurs enfants durant l'étape secondaire. Des lycées réservés aux élèves talentueux ont également été créés en vue de tirer profit de leurs talents et de les orienter vers des spécialités répondant aux besoins du marché du travail. L'enseignement supérieur, quant à lui, a connu un grand bond qualitatif. Une cité universitaire vient tout dernièrement d'être achevée à Nouakchott. Une université d'études islamiques a été ouverte à l'intérieur du pays, ainsi que 4 grandes écoles supérieures spécialisées. L'école des mines, l'école polytechnique, l'école de la formation agricole et l'école des travaux publics. La faculté de médecine a été renforcée et dotée de moyens nécessaires pour couvrir le déficit en personnel médical, en plus de la création de 4 écoles de santé en vue de former les infirmiers d'État et les techniciens supérieurs. Monsieur le Président, la santé constitue un défi majeur pour les pays en développement et pour le continent africain en particulier. Elle est le pendant important de l'éducation. Compte tenu de cela, notre gouvernement a consacré un pourcentage important du budget de l'État à ce secteur vital et a créé des programmes nationaux de lutte contre les maladies mortelles telles que le sida, le paludisme et la tuberculose. Dans le souci d'appuyer cette orientation, nos 4 nouveaux hôpitaux équipés ont été créés, en plus de 70 dispensaires dispensant les soins primaires. Il faut ajouter à cela la construction d'un hôpital spécialisé d'oncologie considéré parmi les plus sophistiqués de la région. Le secteur de la santé travaille aussi en coordination avec certains organismes spécialisés des Nations Unies pour l'organisation continue de campagnes de vaccination des enfants de moins de 5 ans. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'instar de la majorité des pays en développement, notre pays, la Mauritanie, dépend de l'importation des produits de première nécessité du marché mondial, ce qui pèse lourdement sur notre balance de paiement et rend les prix de ces produits assujettis aux fluctuations du marché mondial. Conscient de sa responsabilité, notre gouvernement a veillé à suivre une politique économique et financière visant à alléger l'impact de ce facteur externe. C'est ainsi que le secteur agricole a pu, grâce à cette politique, rendre disponible 60% des besoins du pays en riz et 37% des autres céréales. La culture du blé a été introduite tout dernièrement et a commencé à donner des résultats positifs. Dans le même contexte, un projet pour la culture du sucre, de la canne à sucre, a été lancé en vue de rendre disponible localement ce produit de première nécessité. D'une façon générale, notre gouvernement n'a cessé d'œuvrer dans tous les secteurs afin que ses citoyens puissent vivre dignement. Dans ce cadre, une zone franche a été créée à Ouagadougou, la capitale économique de notre pays et la troisième ville sur le plan démographique, ce qui en fera un grand pôle économique dont tirera profit le pays en particulier et la région d'une façon générale. En vue de renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'inspection générale et la Cour des comptes ont été redynamisées depuis l'accession au pouvoir de Son Excellence le Président M. Mohamed Ould Abdelaziz. Des sommes considérables qui avaient été utilisées à mauvais escient dans certains secteurs ont été remboursées à l'État. Des fonctionnaires de l'État ont été portés responsables de cette mauvaise affectation de certaines sommes. Des accords ont été conclus pour mettre un terme au marché de gré à gré qui portait atteinte à l'égalité de chance entre les opérateurs économiques nationaux et internationaux. La transparence prévaut maintenant dans le domaine de recrutement des fonctionnaires de l'État à travers l'organisation de concours donnant des chances égales à tous les citoyens avec égalité des deux sexes. Du pays un nouvel espoir aux jeunes, ce qui désormais donnera place importante au mérite au lieu du règne du népotisme et d'interventionnisme. La politique d'austérité qu'a suivi notre gouvernement, la réduction du budget de fonctionnement des secteurs gouvernementaux, l'augmentation du budget d'investissement au sein du budget général de l'État ont toutes contribué à l'autofinancement de la plupart des projets de développement du pays. Ces politiques, outre les facteurs subventionnés, ont contribué à réduire le taux du chômage, qui est maintenant aux environs de 10%, en plus de leur contribution à l'augmentation du taux de croissance qui devrait atteindre, selon les prévisions, à plus de 6% à la fin de cette année. Il est également procédé actuellement à la préparation des élections législatives et municipales attendues à la fin de l'année, ce qui renforcera la bonne gouvernance et permettra aux citoyens de participer à la définition de l'avenir du pays et à la détermination de ses orientations politiques et économiques. Monsieur le Président, notre politique étrangère est basée sur le souci de renforcer les rapports de bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Nous œuvrons à travers notre ère maghrébine, arabe et africaine et notre sentiment de responsabilité à diffuser la culture de la paix, à encourager le dialogue, à recourir à la sagesse et à donner à la diplomatie le rôle qui lui convient en tant que moyen pour régler les conflits, éviter les guerres ou y mettre fin. Son Excellence le Président Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, qui n'a cessé de déployer d'énormes efforts à la tête du Conseil africain de paix et de sécurité afin de trouver des solutions à certains conflits sur le continent africain tels que ceux de la Côte d'Ivoire, de la Libye et du Mali, a joué un rôle très important par sa présence distinguée aux sommets sous-régionaux et internationaux dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la zone du Sahel africain est soumise depuis plusieurs années au réseau du crime organisé transfrontalier de toutes sortes, allant du trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains à l'immigration illicite et à la prise d'otages. Nous réitérons notre appel à la communauté internationale pour appuyer les États de la région afin qu'ils puissent faire face à ce danger qui a menacé tout dernièrement un État membre des Nations Unies depuis son existence, ce qui démontre clairement que les États du Sahel ne peuvent à eux seuls faire face à ce fléau. Partant de son devoir, la République islamique de Mauritanie, qui s'est rangée dès le début à côté du Mali frère dans sa crise, a très tôt ouvert ses frontières aux frères maliens qui se sont réfugiés dans son territoire et continue à héberger la majorité d'entre eux aujourd'hui. Notre pays et la capitale Nouakchott a abrité ces derniers mois une série de négociations entre le gouvernement provisoire malien et certains mouvements d'Azawad, ce qui a favorisé la signature de l'accord de Ouagadougou, préparant ainsi la voie tout dernièrement à l'organisation des élections présidentielles. Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos sincères félicitations au peuple malien frère, espérant que ces mutations augureront une nouvelle ère de bien-être, de sécurité et de progrès pour le Mali frère. Mon pays condamne avec force l'attaque odieuse qu'a connue récemment la capitale du Kenya, Nairobi, et qui a coûté la vie à des dizaines d'innocents. Monsieur le Président, depuis plus de 2 ans, certains pays de notre zone arabe qui ont connu ce qu'on appelle le printemps arabe vivent une situation instable. Notre pays, respectueux du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, exprime son entière solidarité avec les peuples de la région. C'est avec une grande préoccupation et une grande inquiétude que nous suivons les derniers développements se déroulant en République arabe de Syrie, sœur. Nous invitons toutes les parties concernées à éviter la violence, à abandonner la logique de l'escalade et à suivre une logique de dialogue afin de trouver une solution pacifique qui épargne au peuple syrien frère davantage de souffrances et de tragédies. Nous insistons en même temps sur la préservation de l'intégrité et de l'intangibilité du territoire syrien, espérant que la mission de l'envoyé spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe, M. Al-Ardal El-Ebrahimi, puisse réussir. Par conséquent, nous fondons un grand espoir sur une solution rapide qui pourra mettre fin au massacre, à la destruction des infrastructures et à la ruine de l'économie syrienne. Nous souhaitons que les peuples d'Égypte, du Yémen, de la Libye et de la Tunisie puissent rapidement achever leurs étapes de transition et instaurer des institutions démocratiques garantissant à leurs citoyens tous les droits et une vie digne dans une atmosphère de bien-être et de prospérité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre pays suit avec beaucoup d'intérêt la question du Sahara occidental et réaffirme son soutien aux démarches entreprises par le secrétaire général des Nations Unies et par son envoyé spécial, personnel visant à trouver une solution définitive, globale, juste et acceptable par les deux parties, ce qui renforcera la sécurité et la paix dans la région et facilitera la construction d'un Maghreb arabe prospère conformément aux attentes légitimes de ses peuples. Monsieur le Président, le conflit arabo-israélien est considéré comme une source d'hostilité et une menace de la paix et de la sécurité dans une région vitale du monde. Malgré que le cadre juridique et les conditions générales pour son règlement aient été fixées depuis longtemps dans une série de résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale et récemment confirmées au fil des ans et récemment confirmée par l'initiative arabe axée essentiellement sur le principe de la terre contre la paix en vue de résoudre ce conflit qui a trop duré. Nous nous réjouissons à cet égard de la résolution 19/79 du 29 novembre 2012 de l'Assemblée générale qui a accordé à la Palestine la qualité d'État observateur non membre aux Nations Unies. Nous espérons que cette résolution soit le début d'une ère nouvelle qui rende justice au peuple palestinien et le rétablisse dans ses droits à travers l'établissement de son État indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. En vue de mettre fin à la souffrance de ce peuple, souffrance qui date de la création de notre organisation. Par souci de justice, de crédibilité et d'équité dans les rapports avec les deux parties en conflit et par respect des décisions pertinentes de la légalité internationale, la communauté internationale doit s'acquitter de ses responsabilités historiques vis-à-vis de la Palestine. Nous renouvelons notre condamnation de l'embargo continu imposé à la Banque de Gaza et des massacres perpétrés par la machine de guerre israélienne contre les civils palestiniens et de la destruction de leurs infrastructures. Nous nous réjouissons des efforts déployés tout dernièrement par l'administration américaine en vue de la reprise des négociations entre les deux parties, espérant qu'ils contribueront à l'obtention du peuple palestinien de son plus simple droit, à savoir l'établissement de son État indépendant. Monsieur le Président, Excellences, distingués délégués, les engagements de la communauté internationale conclus lors de la création de notre organisation ne se réaliseront que si tous les peuples du monde jouissent des possibilités et du développement d'une vie digne dans une atmosphère de liberté et d'égalité conformément aux objectifs pour lesquels notre organisation a été créée. Dieu est le seul garant de notre succès. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec vous.